Bienvenue à toutes et à tous dans Le Meilleur des Mondes, l'émission de France Culture consacrée aux bouleversements suscités par le numérique et les nouvelles technologies. Et ce soir, on plonge dans le monde impitoyable de la télé-réalité pour analyser l'évolution du genre apparu en France en 2001. Comment a-t-il été bousculé par l'émergence des réseaux sociaux? Quel rôle joue-t-il dans le récit télévisuel, de la production à la promotion des contenus, en passant par la réception chez les spectateurs et les fans? En quoi ces réseaux offrent-ils au genre une extension du domaine télévisuel? Les programmes de télé-réalité ont fait naître une importante population d'influenceurs qui monnaient leur notoriété sur tous les écrans et parfois en marge de la loi. Nous verrons d'ailleurs les impacts de la nouvelle législation d'encadrement du marché de l'influence récemment adoptée par le Parlement. Enfin, au-delà des chaînes classiques, comment décrypter l'arrivée des plateformes comme Netflix dans la production des programmes? À quoi pourrait ressembler d'ailleurs demain la télé-réalité? Et pourquoi pas une télé-réalité sans télé? Voici quelques questions du soir avec trois invités derrière le micro. Lucie Alexis, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maîtresse de conférence à l'université Grenoble-Alpes et vous avez coordonné le dernier numéro de la revue Télévision paru en mai. Vous pourrez revenir sur les nombreuses interactions entre réseaux sociaux et télé-réalité à travers notamment la Star Academy qui est revenue sur TF1 presque 20 ans après, un peu plus de 20 ans après. À distance, Virginie Spies, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sémiologue et maîtresse de conférence à l'université d'Avignon. Vous pourrez précisément nous définir les contours de la télé-réalité et analyser comment les réseaux sociaux changent le rapport des fans au programme, ainsi que l'exposition des coulisses des participants aux animateurs qui manient les réseaux sociaux comme vous, TikTok, vous faites sur votre compte de la vulgarisation sémiologique. Enfin, Constance Villanova complète ce trio. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste indépendante pour différents médias, Libération, Society, Télérama ou Arrêt sur Image, où vous tenez une chronique qui s'appelle Confessionnal. On pourra donc compter sur votre analyse autour de l'évolution du genre, le rôle des plateformes et des blogueurs devenus nouveaux experts de la télé-réalité. Au programme également, les nouvelles du meilleur des mondes et la chronique de Marie Turcan, rédactrice en chef chez Numérama, qui nous parlera de la dernière saison d'Ultimatum qui est diffusée sur Netflix. Notre émission s'écoute en direct ou en podcast sur l'application Radio France et se regarde toujours sur la chaîne Twitch de France Culture. Le meilleur des mondes, c'est parti.
Bonsoir à tous. Bonsoir. Vous avez entendu parler ces derniers temps de Star Academy. Aujourd'hui, c'est le grand soir. Bienvenue, soyez les bienvenus à Star Academy. Que va-t-il se passer?
Bonsoir et bienvenue à tous pour cette grande première. Je suis extrêmement heureux d'être avec vous en direct sur M6 pour le coup d'envoi de Love Story.
C'est à longueur de une, tous les jours, comme si c'était le grand événement du siècle. Hein, de montrer des gens qui ne font rien, qui ne produisent rien, qui n'inventent rien, et dont le seul but dans la vie est de gagner de l'argent et de se faire connaître.
Est-ce que je peux savoir ce que vous faites exactement?
Moi, je suis influenceuse. C'est-à-dire que j'ai fait de la télé-réalité en France.
Toi, tu le sais, business is business. Après, si on n'est pas amis, il n'y a pas de problème, tu vois.
Je peux me permettre une petite photo mentale? Pardon, je vous ai coupé.
Non, c'est rien. C'est juste un manque de respect inouï. Annie, tu vois, ah ouais, c'est du jamais vu.
T'as pas honte? Tu connais le mot humour? U-M-O-U-R.
La télé-réalité, c'est le symbole d'une époque de transition entre la fiction du cinéma et la réalité relative des réseaux sociaux. La télé-réalité, c'est le monde que l'on regarde comme dans un microscope.
Je voudrais juste dire quelque chose. Merci de vous être intéressé à moi.
Merci de vous être intéressé à moi, c'est Loana qui nous parle. On est en 2001, c'est à l'époque de Love Story qui fait son apparition sur M6. Ça a été un bouleversement, on était dans un tout autre paysage audiovisuel français. Il y avait que quelques chaînes, c'était une volonté aussi pour M6 de s'imposer avec un nouveau genre et de regagner des parts de marché face à sa concurrente TF1. On se rappelle tous, pour ceux qui ont été contemporains de ce programme, que ça avait suscité la polémique, la une et la couverture de nombreux journaux. Depuis, la télé réalité s'est banalisée. D'ailleurs, ses codes, son esthétique s'est décimée dans de nombreux programmes, au point qu'on peine parfois à définir précisément ce que c'est qu'une télé-réalité. Ça sera la première question que j'adresse à Virginie Spies. C'est quoi en fait une émission de télé-réalité?
Eh oui, c'est effectivement compliqué à définir ce que c'est que la télé-réalité. En effet, comme vous l'avez très bien rappelé et comme votre sonore le montrait aussi très bien, c'est peut-être d'abord en fait la mise en scène de personnes d'abord qui ne sont pas connues, de personnes inconnues, de personnes dites ordinaires. Dans le genre le plus ultime entre guillemets de la télé-réalité, on parle de télé-réalité d'enfermement. C'était Love Story, c'était Secret Story, et on peut même dire que Koh-Lanta finalement, qui est un peu la continuité de ces émissions-là, c'est des émissions. On n'est pas enfermé à Koh-Lanta, mais on est quand même ensemble et on va rester ensemble pour avoir certains objectifs. Et ça, je crois que c'est la troisième chose. C'est une forme de jeu, en fait, souvent la télé-réalité, avec des objectifs vers lesquels concourent les différents participants, qui souvent sont aussi des aspirants à la célébrité. Mais pour finir un petit peu cette tentative de définition, il y a depuis 2001 et depuis le Loft en France, énormément d'émissions de télé-réalité qui sont un peu les enfants, les parents en fait de ces programmes-là, comme les émissions de télé-coaching, comme Super Nanny, comme Pascal le Grand Frère, ou encore les émissions de cuisine. Donc il y a différents genres pour qualifier la télé-réalité.
Et on a bien compris justement la télévision d'enfermement. On voit que c'est une tendance qui a disparu un petit peu. Alors qu'au début, c'était ce qui a fait connaître la télé-réalité. C'est aussi, j'imagine, parce qu'avec un téléphone portable, avec les réseaux sociaux, puisque c'est l'objet justement de notre sujet du soir, c'est compliqué de faire une télévision d'enfermement. C'est plus compliqué.
Ah oui, c'est ça qui est passionnant sur les liens entre télévision et réseaux sociaux, c'est que ça devient de plus en plus difficile. En tout cas, c'est très différent de l'époque du Loft où là, il n'y avait pas encore tout cet univers en fait des réseaux sociaux, Twitter, Instagram ou TikTok. Donc, on voit qu'il y a une sorte de déclinaison maintenant de la télé-réalité d'enfermement. Je pense notamment aux Marseillais ou encore aux émissions faites par les Kardashians aux États-Unis, où il va y avoir le programme d'enfermement de télé-réalité et en même temps nos héros entre guillemets. Qui vont s'exprimer pendant ce temps-là, ou avant, ou après, sur les réseaux sociaux. Donc, il y a une multiplication des récits médiatiques et de la narration grâce ou à cause des réseaux sociaux.
Alors, il y a un bon cas d'école, justement, pour essayer d'analyser les mutations et ce que les réseaux sociaux ont apporté, comment ils ont modifié le genre. Lucie Alexis, c'est la Star Academy, puisque c'est un programme qui est né il y a plus de 20 ans et qui a fait son comeback, qui est revenu à l'antenne, justement, sur TF1 avec tout un marketing. C'est un beau cas d'école, si je puis dire, pour analyser justement les différences entre une Star Academy qui est née avant les réseaux sociaux et un Star Academy de 2022. Ça serait quoi les deux grandes mutations les plus profondes par rapport à cette évolution de programme?
En tout cas, c'est un cas d'école qui, moi, m'a passionnée depuis l'été et jusqu'à la publication de cette revue.
La revue Télévision dont je parlais effectivement
en premier de cette émission. CNRS Édition.
qui est parue le mois dernier, en mai.
Oui, tout à fait. En tous les cas, c'est un cas d'école qui m'a vraiment passionnée parce que bon, moi, j'étais adolescente à la première Star Academy, évidemment, et aujourd'hui, j'arrive un petit peu avec mes outils de chercheuse et de sémiologue, comme Virginie, pour analyser cette Starac. Et je me suis effectivement demandé si la Star Academy de 2022 était réellement différente de la Starac de l'époque, quand j'avais 15 ans finalement. Et est-ce que les réseaux sociaux ont réellement bouleversé cette Starac? C'était vraiment cette question finalement.
Là, c'est le suspense, c'est la réponse.
Et la réponse est... Bah oui, mais pas vraiment, en réalité. Notamment parce que la Starac, c'est vraiment une émission qui est très, très liée au linéaire, qui est très, très liée à cette programmation quotidienne et ce prime du samedi. Finalement, c'est ça qu'on suit. On ne suit pas une émission qui a été enregistrée il y a 6 mois dans une villa au soleil et qui est diffusée aujourd'hui à l'antenne.
On peut dire tout de même que le casting, par exemple, s'est opéré sur les réseaux sociaux. C'est quand même aussi alors une distinction qui a été faite pour aller chercher des inconnus. Alors, on parlait de télécrochet pendant longtemps. Là, finalement, la rue, l'extérieur, ce sont les réseaux sociaux.
Alors, c'est vrai, le casting s'est déployé sur TikTok. Ça a été annoncé après dans une bande-annonce, juste après Koh-Lanta d'ailleurs, après une émission de Koh-Lanta. Nico, ça a effectivement fait une petite présentation sur TikTok indiquant qu'on pouvait poster son tour de champ. Et il était prévu que les 3 meilleures vidéos, les 3 vidéos les plus intéressantes, les plus sollicitées, passent directement au casting final. Moi, j'ai absolument pas vu trace de cette ce chamboulement finalement. Je ne sais pas du tout qui des candidats qui ont été sélectionnés est passé par TikTok ou pas.
Alors, je vais pas dire des candidats dont l'identité numérique a aussi été un peu standardisée, formalisée. On sent qu'il y a une volonté justement de garder un peu la main sur ces réseaux-là, notamment pour la Star Academy.
Alors oui, c'est vrai, sur la Starac, les candidats ont ouvert, enfin la production du coup a permis de formater une forme de profil hein, de chacun de ces candidats. On voit en tout début du lancement, voilà, les candidats sont annoncés, ils sont sur voilà un fond orange, ils ont absolument tous la même les mêmes paroles finalement.
Ce qui va à l'inverse des réseaux sociaux, on essaie d'habitude de montrer sa singularité et on voit qu'il y a une forme d'uniformité. Constance Villanova, vous qui suivez justement ces programmes, qui les analysez, vous avez forcément regardé cette nouvelle mouture de la Star Academy. Pour vous, ce serait quoi justement peut-être l'exemple le plus saillant, le plus frappant de cette nouvelle version et de l'influence des réseaux sociaux sur la manière dont elle a été présentée?
Moi, j'ai remarqué que ça cartonnait particulièrement sur Twitter, où il y a des canaux dédiés qui ont été créés avec des très très jeunes internautes qui échangeaient à propos de la Starac. Et je pense que ça a très bien marché aussi, parce qu'on est face à une génération qui est très nostalgique dans la mode, dans le vestimentaire, dans la musique des années 2000. Donc c'était un jackpot pour Endemol de reprendre cette esthétique, de jouer sur cette nostalgie et puis aussi de faire venir les parents et les enfants sur le même programme.
C'est vrai que là, on touchait deux cibles, à la fois la nostalgie de ceux qui avaient 20 ans au moment où le programme passait, et puis cette jeune génération qui a peut-être redécouvert le programme, ou comme vous le dites, qui a envie de vivre aussi dans les années 2000.
Oui.
Et il y a eu toute une esthétique un peu des années 2000 qui a été travaillée.
Oui, complètement. Et puis, il y a quand même cet usage du téléphone pour appeler l'extérieur, le téléphone fixe, qui est un objet que beaucoup de très jeunes téléspectateurs n'ont pas connu. Enfin, voilà, on a remobilisé toute cette esthétique-là et on a créé un programme transgénérationnel qui renouait aussi avec l'instantanéité, c'est-à-dire que la majorité des programmes depuis 2010 de télé-réalité sont tournés des mois à l'avance avant la diffusion, donc il y a des fuites beaucoup. Et là, voilà, on était vraiment sur une diffusion quasi instantanée, on renouait avec les codes initiaux du genre, donc ce qui plaisait beaucoup.
Ce qui plaisait beaucoup, Virginie Spias, aussi, vous avez analysé la manière dont les réseaux sociaux changent les programmes. Ils servent aussi, ces réseaux sociaux, à combler les blancs de la narration. Expliquez-nous.
Oui, ils servent à combler les blancs, c'est-à-dire qu'un programme, par définition, il a une durée, il a une date de début et puis une date de fin, et donc alors il y a plusieurs blancs entre guillemets dans la narration. Il va y en avoir dans des programmes comme la Star Academy ou comme The Voice qui vont avoir une durée de quelques mois, et il va y avoir aussi le moment où bon, on va avoir une heure par exemple d'émission, et puis après, qu'est-ce qui va se passer? Il reste encore 23 heures à combler finalement. Et les réseaux sociaux, ce qui est intéressant dans l'analyse que j'ai faite avec Marie-Caroline Neuvillère pour la revue Télévision dans notre article, c'était d'observer que, en fait, les réseaux sociaux viennent combler ces blancs dans la narration, viennent nous parler, viennent créer des récits qui peuvent être des récits annexes, des récits qui vont compléter, en fait, ce que la télévision, ce que le petit écran nous dit déjà. Alors, ça n'empêche pas les téléspectateurs qui n'ont pas ces réseaux sociaux de quand même bien suivre le programme, mais ça, c'est un plus, je dirais, quelque chose de supplémentaire pour les internautes, ceux qui vont être sur Twitter, sur Instagram ou sur TikTok. Et ça, on le voit fortement avec le programme des Kardashian, qui sont elles-mêmes les sœurs Kardashian, productrices de leur propre émission.
Alors, effectivement, pour parler des blancs, là, on voit que les réseaux sociaux créent une sorte de continuum, c'est-à-dire qu'effectivement, ça ne s'arrête jamais. Mais il y a eu des tentatives aussi de la télévision de créer des chaînes dédiées, qu'elle ait diffusé 24 heures sur 24 ou 23 heures sur 24. Déjà, des programmes, on essaie de le faire en linéaire aussi, qu'on soit Sulianova, ça existait à l'époque?
Oui, ça existait avec le Loft, ça existait avec la Starac, mais il y a quelque chose qui est rentré dans l'univers de la télé-réalité qui s'appelle le droit du travail et qui fait que c'est très compliqué de filmer 24 heures sur 24 les mêmes personnes, de les faire travailler 24 heures sur 24, donc il y a des jours off, et puis surtout on consomme différemment. Maintenant les ados regardent plus la télévision, ils vont regarder du replay, ils vont être sur leur ordinateur, ils vont pas allumer TPS Star comme à l'époque pour regarder leur candidat s'agiter, donc ça, il y a eu des tentatives, mais ce qui est intéressant, si on reprend ce que vous disiez sur le scénar, enfin la continuité qui se fait sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a aussi cette continuité entre les saisons, c'est-à-dire que les Marseillais, il y a plusieurs produits dérivés des Marseillais, et en fait entre deux saisons des Marseillais, les fans vont suivre les couples qui se sont formés à l'issue d'une émission, vont voir s'ils vont comment va évoluer le couple, et comme ça, voilà, ça crée quand même une continuité narrative sans l'aide des boîtes de prod entre les différentes saisons.
Ce qui est intéressant, c'est que c'est une télé-réalité qui se continue au-delà de la télé, finalement.
Oui, complètement.
Au-delà du champ. Et quand vous dites sans l'aide des maisons de production, c'est-à-dire qu'on part du principe que ça, c'est un récit autonome, c'est pas un récit qui peut être récupéré, orchestré?
Si, ça peut être récupéré, orchestré, mais on est face à des candidats qui sont professionnalisés, hein. C'est ça la différence avec la télé-réalité faite d'anonymes, c'est que maintenant, on recycle les mêmes candidats, et d'ailleurs, c'est ça qui peut lasser certaines personnes, certains téléspectateurs, certains fans. Et donc, voilà, les candidats se professionnalisent, ils mettent en scène leur vie intime, ils mettent en scène leur couple, la naissance de leurs enfants. La naissance de leurs enfants peut même créer un show à part entière. Hein. On l'a vu avec des couples phares de télé-réalité qui voilà, ont filmé l'accouchement, la maternité. Il y a le mariage également. Donc oui, c'est gagnant-gagnant en fait pour les deux. Tant pour les placements de produits du côté de l'influenceur que pour la narration de la production de l'autre côté.
Alors vous avez cité le mot d'influenceur, on y reviendra. C'est effectivement ces stars, ces vedettes de la télé-réalité sont très vite des influenceurs. Ils ne le sont pas tous, mais en tout cas, ils peuvent tous le devenir et ça peut leur permettre d'avoir des compléments de revenus qui peuvent être très importants. Virginie Spies, vous vouliez réagir.
Oui, je voulais dire, pour compléter ce que disait très justement Constance, c'est que à la fois ça devient des professionnels, ces candidats, dits candidats de la télé-réalité qui n'ont plus grand-chose du candidat, et que même avant de devenir célèbres, ce sont maintenant des générations en fait qui ont toujours connu la télé-réalité. Mmh. Donc des personnes qui, il n'y a plus de Loana ou de Jean-Edouard en fait. Hein. Ce sont des personnes qui ont grandi avec ça, qui ont déjà les codes et qui vont déjà travailler leur Instagram, travailler leurs réseaux sociaux pour pouvoir éventuellement passer dans des programmes. Voilà.
Oui, effectivement, ce sont des gens qui ont des référentiels. C'est ce qui peut d'ailleurs donner un sentiment aussi de lassitude, parce qu'on va avoir une automatisation des comportements des candidats qui vont essayer de reproduire ce qu'ils ont eux-mêmes déjà vu. On n'a plus cette stupéfaction du départ en se disant mais comment les gens vont réagir à une situation inconnue.
Absolument. Et d'ailleurs, il y a une sorte de façon de copier, en fait, et de faire la même chose que les autres. Et ça, on le voit très fortement chez les influenceurs. Quand, je vais prendre Nabila comme exemple, on peut en prendre plein d'autres, va faire une promotion pour un produit qu'elle vend ou quoi. On va voir, j'avais même dirigé un mémoire sur cette question à l'université, on va voir, en fait, des personnes lambda, comme vous et moi, qui vont faire les mêmes photos, reprendre la même énonciation pour faire la même promotion, mais gratuitement cette fois, sur les réseaux. Donc, ça devient en fait des VRP gratuits et donc c'est tout bénef pour les marques. Hein.
Dans un grand effet mimétique, effectivement. Lucie Alexis.
Oui, ce que moi je trouvais intéressant avec la Starac, c'est qu'on était justement face à une espèce de promotion très sage et des candidats assez différents finalement de ces candidats un peu, je crois que tu as employé formaté, Virginie, comme terme, je ne sais plus, mais voilà, c'était des candidats qui, au final, disaient à l'antenne qu'ils étaient assez satisfaits, en fait, de plus avoir de téléphone portable à la main, que ça ne leur manquait pas, voilà, c'était assez rigolo, finalement, d'être face à des personnages très différents de ce qu'on voyait ces dernières années, finalement.
Alors, il y en a un, lui, qui a toujours gardé son téléphone à la main et qui est du côté de la Starac Nuit, c'est l'animateur Nico Sayas, qui, lui aussi, avec ses réseaux sociaux, fait vivre une autre manière du point de vue des coulisses, le récit de la télé-réalité. C'est une innovation aussi du genre depuis la Star Academy des années 2000.
I'm back.
Alors Nikos, on y est.
La première fois que je suis venu, c'était il y a 21 ans. Je ne savais pas ce que c'était déjà. Je connaissais le concept sur le papier. Je n'avais pas compris qu'il y avait un château. J'avais pas compris à l'époque, il y avait des caméras partout. Enfin, on découvrait tous quand on était des apprentis sorciers. Donc la première fois que je suis arrivé ici, j'étais un des premiers arrivés ici en plein travaux. Ce fameux jour où j'arrive avec des costards trop grands, des cheveux plus longs. J'arrive de Grèce, je faisais encore 20 heures. Je suis en train de changer ma vie, mais je ne le sais pas. Mais je pensais pas revenir un jour ici. Et je me souviens, mais du chemin, c'est exact, rien n'a changé. Mais je pensais pas que 21 ans plus tard, j'allais revenir. Sur les pas de cette histoire qui a changé ma vie. Ça fait drôle. Oh là là, regarde. Il n'y a rien qui a bougé.
Nico Sayagas, donc, il se confie, une sorte de confessionnal qu'il se fait lui-même, donc filmé avec son téléphone portable. Ça ne passe pas à l'antenne, c'est d'autres récits, d'autres histoires qui vit finalement en parallèle. On voit que Denis Brogniart le fait aussi sur Koh-Lanta. Quel est le rôle finalement de cet animateur, Virginie Spies, quelle est sa fonction?
Oui, c'est un rôle très important, notamment avec Nikos ou encore, comme vous l'avez dit, Denis Brognard. C'est un rôle de passeur, mais c'est un rôle aussi d'identité. En fait, c'est bien Nikos qui porte l'identité de la Star Academy. Il était en début de carrière en 2001. Aujourd'hui, bon, il est très connu. C'est un des animateurs préférés des Français. Et en plus, on sait que c'est lui qui utilise ses réseaux sociaux pendant The Voice. Il utilise Twitter. Il met des photos en direct. Donc ça, c'est très apprécié. Il y a un besoin d'authenticité, en fait, dans la télé-réalité. C'est d'ailleurs une de ses promesses, hein, vous allez voir ça pour de vrai. C'est la vérité, c'est ce qu'on nous dit depuis 2001. Et Nikos, ou Denis Brognard, mais surtout Nikos, c'est vrai, fait partie de ces personnes-là, en fait, qui sont appréciées et qui ont cette instance de vérité et de réalité. Et ce que montre d'une façon assez intelligente Nikos, là, dans les traits qu'on vient d'entendre, c'est justement le dévoilement des coulisses. Et c'est ça qui apporte beaucoup les réseaux sociaux et que la télévision ne peut pas vraiment dévoiler, c'est ce qu'il y a derrière, en fait. C'est ce que l'on ne voit pas quand on est en train de regarder la télévision en famille. Et moi, dans les études que j'ai pu faire sur la télé-réalité, c'est une chose très importante que ce dévoilement des coulisses que seuls peuvent faire ce qu'on appelle les énonciateurs en linguistique, donc les animateurs ou encore les participants.
Alors, vous avez prononcé le mot d'authenticité, Constance Ulanova. L'authenticité, il est au cœur de la promesse de la télé-réalité. L'authenticité est aussi au cœur des réseaux sociaux, des influenceurs qui se veulent authentiques, qui vont nous parler directement les yeux dans les yeux. Donc on voit qu'il y a une adéquation finalement entre l'outil, le réseau social et le genre de la télé-réalité. Sauf que depuis 20 ans, vous avez parlé de ces candidats qui sont professionnalisés. Le spectateur, il s'est aussi professionnalisé, il est aussi plus mature, il arrive à déceler, il sait qu'il y a des choses qui sont écrites, qu'il y a une bible, que ça peut être bidonné. Quid de l'authenticité aujourd'hui en 2023?
Je pense qu'on sait qu'il y en a très très peu. Alors, avec la Starac, il y en avait un peu parce qu'il y avait ce casting assez neuf, quasi naïf. Enfin voilà, on retrouvait cette spontanéité. Maintenant, le spectateur, on le fait pas. Il sait très bien que tout est un peu scripté, surjoué, etc. Mais on va plus s'accrocher à des personnages, on va s'accrocher à des grandes gueules. Et oui, on sait que c'est surjoué et les fans le savent très bien. Mais voilà, il y a ce côté, comme vous disiez, vraiment le côté où l'influenceur, la candidate s'adresse directement à son public, ça crée un lien encore plus fort. On a l'impression d'être encore plus proche des candidats qu'on ne voyait qu'à la télé ou dans la presse à scandale avant. Donc en fait, ça joue aussi en la faveur de cette authenticité-là.
Lucie Alexis, on voit aussi que la télé-réalité fournit tout un réservoir de même audio sur TikTok et Instagram. C'est ça aussi, ce qu'il y a de nouveau, c'est la télé-réalité qui va alimenter, nourrir toute une rhétorique, toute une esthétique des réseaux sociaux.
Oui, tout à fait, une réappropriation, une extraction finalement de ce qui se passe à l'antenne et qui est réappropriée aussi parfois par les spectateurs et les utilisateurs du coup des réseaux sociaux. Il y a un article dans le numéro qui le montre, qui montre justement tout ce cadre très parodique donc par Thibaut Grison et Lisa Bolz. Sur c'est cette manière dont les spectateurs vont vraiment se réapproprier, parodier. Et ça, c'est clairement une extension qui est très intéressante à observer.
Notamment sur TikTok, hein, puisqu'on avec LimSync. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est? On va reprendre justement un extrait, un dialogue d'une télé-réalité qu'on va essayer de rejouer sur TikTok.
Absolument, voilà, c'est ça. C'est par exemple, mettre soit couper le son et puis inventer des dialogues. Ou alors, ils expliquent ces deux auteurs aussi, par exemple, que c'est l'inverse. Hein, c'est on garde l'image, on coupe le son. Enfin voilà, c'est vraiment ces scènes qui sont rejouées, quoi.
Il y a aussi quelque chose d'intéressant lorsqu'on est sur une diffusion en direct par l'usage des réseaux sociaux, c'est de créer le second degré qui va justement peut-être amener un autre public qui va peut-être regarder un peu plus de manière qui va connoter négativement finalement ces programmes de télé-réalité, mais qui par une sorte de jeu de second degré, de blague sur le réseau social, sur Twitter par exemple, va pouvoir tout de même consommer le programme d'une autre manière. Ça, c'est quelque chose qu'on a pu observer, Constance Ulanova.
Oui, le but des producteurs, c'est de créer des séquences en fait, et qu'on les aiment ou qu'on les déteste, qu'on les moque ou pas, ça crée des séquences, ça crée des clashs, et on va favoriser ces clashs, ces scènes, on va favoriser leur diffusion sur les réseaux sociaux, et encore une fois, les boîtes de prod sont gagnantes, même quand on se moque des candidats.
Virginie Spies, vous parlez même d'un Twitter comme étant le plus grand canapé du monde.
Oui, c'est ça. Twitter, c'est le plus grand canapé du monde. On le voit notamment avec Koh-Lanta, diffusé le mardi en ce moment. Il n'est pas rare que Koh-Lanta soit en top tweet avec tous les prénoms de tous les candidats qui restent encore dans Koh-Lanta. On aime à discuter, en fait, de la télévision. La télévision a ceci de commun avec la météo. C'était Michel Denisot qui le disait quand il a eu l'idée du zapping. Il s'est rendu compte qu'il y avait deux choses dont les Français parlaient tout le temps, très naturellement et très simplement. C'était la météo et la télévision. C'était une bonne idée finalement, il avait raison, il a créé le zapping et on a connu un grand succès avec le zapping. Et donc on aime parler de la télévision c'est un média social bien avant l'invention des réseaux sociaux. Et on aime en parler, la détester, la critiquer, ça crée du lien social en fait, la télévision et les programmes du coup qui sont très populaires sont très discutés sur les réseaux. Pendant le confinement par exemple, il y avait plus de sport à la télévision parce que c'était interdit, enfin il y avait plus d'activités, et Koh-Lanta a fait un grand succès à la télévision grâce aux réseaux sociaux aussi, où c'était un endroit où on pouvait se retrouver pour en parler ensemble. Alors, et la télévision, c'est ça.
Il y a eu un autre acteur aussi qui adore parler de la télévision et qui vit des coulisses de la télévision, c'est la presse People, que vous connaissez bien. Elle a été un peu remplacée justement par les réseaux sociaux, par ces stars qui font leurs propres médias, par ce récit justement qui existe à côté de la télévision, mais qui n'est pas forcément sur le papier glacé, mais qui est tout simplement sur le cyberespace.
Elle a été un peu remplacée, en effet. Il y a maintenant une autre économie du people à cause ou grâce aux réseaux sociaux. Mais ce qu'on sait peut-être un peu moins, c'est que, par exemple, la naissance du magazine Public en 2003 est venue, en fait, parce que Nicolas Pigasse, à l'époque, a eu cette idée. C'est lui qui a créé le magazine Public. Il s'est dit, mais il y a le Loft qui vient d'arriver. Ça va faire des nouvelles stars. Il va y avoir de nouveaux people dont on va pouvoir parler. Et c'est comme ça que ça a démarré, en fait. Donc, ces liens entre télé-réalité, et réseaux sociaux, et était déjà très très fort à l'époque et avec la question de la célébrité, en effet.
Et on comprend mieux maintenant le nom de Public, finalement, des stars venues du public, les lambda que vous évoquez de la télé-réalité qui deviennent des stars souvent éphémères. Constance Villanova, on voit aussi l'apparition d'autres acteurs comme des blogueurs stars aussi.
Il y a plusieurs, donc on a eu des blogueurs assez connus comme Jérém Star qui faisait des interviews de candidats et candidates dans son bain. Mais depuis, il y a de plus en plus de blogueurs, ils se définissent comme des blogueurs, qui sont en fait des comptes Instagram qui vont relayer des informations sur les tournages en cours et qui ont les infos via les boîtes de production elles-mêmes, donc il y a des fuites, ou via les candidats eux-mêmes. Et en fait, moi j'ai enquêté à ce sujet pour Vice France, et c'est une vraie mafia, parce qu'en fait on est face à des très jeunes internautes qui vont aller à la chasse au scoop, où tous les coups sont permis, où on ne sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux. Certains vont dire que deux candidats sont en couple alors que non, etc. Et en fait, c'est un peu le cauchemar des boîtes de production, parce que on sait avant même la fin du tournage qui est en couple avec qui s'est clashé avec qui. Et donc, à cause de ces fuites-là, on n'a plus trop envie non plus de regarder ces programmes-là. Et c'est ça aussi le problème des réseaux sociaux, c'est que les réseaux sociaux sont à la fois une extension et peuvent provoquer aussi la chute de ces programmes, puisqu'on sait à l'avance, les candidats eux-mêmes vont divulgâcher l'aventure en mettant des photos de eux et leur nouveau conjoint, alors que le couple s'est
formé pendant le tournage. D'où la nécessité du direct, en fait. D'où l'importance du direct.
Exactement, et de l'instantanéité. Et ça, donc, on voit que les boîtes de production, c'est vraiment leur cauchemar. J'en avais parlé avec des casteuses qui m'expliquaient que c'était impossible de faire taire ces blogueurs-là qui sont eux-mêmes devenus des influenceurs de scoop de télé-réalité et qui arrivent à en vivre financièrement.
Et pourtant, cette multiplicité de points de vue, est-ce que c'est pas un retour à l'authenticité, finalement, à la réalité, puisqu'on va pouvoir conforter et confronter différents points de vue sur la situation, Lucie Alexis?
Oui, sans doute. Je me permets juste de réagir à ce que disait Constance. J'ai pas fait d'études là-dessus, mais il me semble qu'il y aurait vraiment quelque chose à faire. Moi, quand je pose la question à mes étudiants et à mes étudiantes, est-ce que vous regardez la télé-réalité? Eh ben, beaucoup me disent qu'en fait, ils regardent la télé-réalité via les réseaux sociaux. Donc, pas la télé-réalité, du coup, mais les réseaux sociaux réalité. Et je réponds pas du tout à cette question.
Non, mais par contre, vous répondez à une bonne question qu'on aurait pu poser plus tard, mais on peut la poser maintenant. C'est que finalement, dans la télé-réalité, il y a télé. On pourrait se passer à télé dans le sens télévision et pas à la distance.
Est-ce que la télé-réalité encore besoin de la télé?
Voilà, et ce que vous évoquez, c'est que peut-être que non, en fait.
Peut-être que non, à voir.
Même si c'est cette réappropriation et cette extension, elle se base à partir d'un référentiel. Donc même si c'est consommé que par séquence ou que par données, c'est bien grâce à la télévision qui offre quand même un média d'exposition important qu'on ne peut pas forcément toujours retrouver sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, on voit, puisqu'on parle de médias, qu'on est quand même passé au début des années 2000 de grandes chaînes qui faisaient la télé-réalité, TF1, M6, etc., à des chaînes peut-être mineures aujourd'hui. Enfin, en tout cas, un deuxième rideau de chaînes de télévision, W9, NRJ12. Donc, il y a aussi une mutation par rapport à
l'enfance. Oui, qui produisent en quantité industrielle. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une semaine de pause, à part peut-être l'été, pour ces programmes-là. C'est-à-dire qu'il y a des suites en permanence. Et donc, il y a moins d'investissements, il y a moins de coûts, il y a moins de techniques. Donc, il y a peu de caméras. Donc, c'est de moins en moins bon. Enfin, voilà, on est en train un peu de se lasser. Le public est en train de se lasser aussi pour ça. C'est qu'on retrouve les mêmes scénarios, les mêmes concepts, et avec de moins en moins de moyens techniques. Ce qui fait que, oui, il y a une certaine lassitude et une fatigue de la part du public, je pense. Quand c'est pas la Starac et les moyens qui ont été alloués par Endemol.
Il n'y a pas une grande marque derrière.
Et quand même, quand TF1 remet la Starac à l'antenne, on reproduit quand même une émission qui a bien marché, qui a existé. On reprend une recette qui fonctionne. Mine de rien, c'est quand même une réappropriation. On joue sur un ressort nostalgique. M6, un peu dans la continuité, a fait ses primes sur la nouvelle star.
Oui, il y a une capitalisation effectivement de marques existantes et de recettes qui ont bien fonctionné, comme la télévision. C'est si bien le faire. Virginie Spies, rapidement.
Oui, par rapport à ce que vous disiez sur y a-t-il encore de la télé dans la télé-réalité, est-ce que c'est pas la fin de la télé? Moi, je crois pas vraiment, parce que ce qui reste important quand même, c'est le rendez-vous. Et on le voit avec la Star Academy, qui a eu du succès, et dans les quotidiennes, et dans les primes, et à quel point, par exemple, Twitch, quand Twitch fait des programmes, ils donnent des rendez-vous également. Donc, on a beau avoir ce flux sur lequel on scrolle sur les réseaux sociaux, la question du rendez-vous, je pense, reste importante, comme des chapitre qu'on ouvre chaque jour ou chaque semaine, en fait, pour retrouver nos héros, entre guillemets, bien sûr.
Constance Villanova.
Oui, et puis ce rendez-vous, il a été un peu tué par Salto, enfin par une plateforme que M6 a mis en place, où on retrouvait beaucoup de programmes de télé-réalité avec 24 heures à l'avance un épisode inédit. Et en fait, c'est vraiment ce côté où, c'est vrai que moi, quand je regardais de la télé-réalité, enfin je regarde toujours, mais pour le travail.
Mais pour le travail, bien sûr.
j'avais mon téléphone à la main et je textotais mes copines en direct parce que Nabila venait de dire telle bêtise et que j'étais morte de rire parce qu'il y avait on était dans l'instant et il fallait regarder. Maintenant, avec ce côté replay et ce côté épisode 24 heures à l'avance, on a l'impression que Salto et les plateformes ont un peu tué ce rendez-vous, justement. Netflix tente de faire sa télé-réalité aussi en mettant parfois des épisodes au compte-gouttes, mais c'est pas pareil de les regarder le même jour. Il faut le regarder à la même heure pour créer justement cet instant-là.
Eh bien, justement, on parlera de l'importance des plateformes dans la seconde partie de cette émission, car dans Le Meilleur des Mondes, on pense aussi aux rendez-vous et à l'importance des rendez-vous. Et il y en a un qu'on ne veut jamais manquer, c'est celui de la musique, qui arrive exactement à la mi-temps de cette émission. La Villa, mon amour, c'est par Stromae.
Y'a d'abord eu Natacha, mais avant y'avait Nathalie. Puis tout de suite après y'a eu Laura, et ensuite y'a eu Aurélie. Évidemment y'a eu Emma, mon Emmanuel et ma Sophie. Et bien sûr y'a eu Eva et Valérie. Mais mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Oui mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Mon amour, oui c'est promis. Oui c'était la dernière fois. Et je te promets que je t'ai tout dit. Plus rien tu ne découvriras. Plus aucune autre fille dans notre lit. Elles m'ont mis dans de beaux draps. Oui bien sûr j'ai choisi, mais pas celle-là. Mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Non, c'est pas ce que tu crois. Je sais, ça paraît bizarre. Non, c'est pas ma faute à moi, mais sans doute la faute au hasard. Pourquoi tu t'en vas? C'était la dernière fois. C'était juste un coup d'un soir. Ça comptait pas. De façon, je sais qu'au fond de toi, tu les aimes bien les connards. Mon amour, mon amour, oui, mon amour. Tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours.
Oui, pour toujours.
De Depuis que t'es parti, la vie n'a plus la même saveur. Les draps n'ont plus la même odeur. Depuis que je fais la lessive, mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Est-ce qu'il en a une plus grosse que moi? Vous le faites combien de fois par mois? Et puis mes slips sont dans quelle armoire? Mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Mais pourquoi, pourquoi la vie est si injuste? Dis-moi, dis-moi ce qu'il a de plus que moi. Dis-moi ce que j'ai fait au juste. Pourquoi, pourquoi la vie est si injuste? Dis-moi, dis-moi ce qu'il a de plus que moi.
La villa, mon amour, par Stromae, qui s'est amusé à faire, bien sûr, une petite parodie du genre de la télé-réalité dans un clip dont on vous donne le lien actuellement sur la chaîne Twitch de France Culture, car je le rappelle, le meilleur des mondes se regarde aussi sur Twitch. Tout de suite, c'est le journal.
Better, happier, comfortable, not drinking too much, regular exercise at the gym, 3 days a week.
Les nouvelles du meilleur des mondes, François Saltiel.
Et on loupe ce journal en faisant un petit tour par le palais du Luxembourg où se trouve le Sénat qui vient d'adopter l'article 3 du projet de loi sur la justice. Un article qui provoque de nombreuses inquiétudes venues des rangs de la gauche, d'avocats ou encore de défenseurs des libertés. Cet article autorise le déclenchement à distance des caméras ou micros d'appareils connectés comme les smartphones dans certaines enquêtes comme celles liées au terrorisme, au crime organisé ou de manière plus large aux affaires de délinquance. Des procédés de surveillance déjà appliqués concède le ministre mais qui jusque-là nécessitait de mettre en danger des officiers qui devaient aller sur le terrain pour peser des balises ou planquer micro et caméra. À partir de maintenant, cette surveillance pourra s'opérer à distance, en quelques clics, et sur tous les appareils connectés, les voitures intelligentes, les caméras d'ordinateur, l'assistant vocal comme Alexa. Et c'est bien ce qu'alerte l'Observatoire des libertés et du numérique qui pointe une intrusion disproportionnée de la police qui transforme potentiellement chacun de nos outils en mouchard. La gauche aurait par ailleurs souhaité une protection explicite des journalistes, au même titre que le seront avocats, magistrats ou parlementaires. Hasard du calendrier, cette disposition est adoptée 10 ans après les révélations de l'affaire Snowden qui ont éclairé la surveillance de masse de l'État américain par les outils technologiques. Information rendue publique au passage grâce aux médias et aux journalistes d'investigation.
Souriez, vous êtes filmé.
Elon Musk continue avec Twitter d'animer la campagne présidentielle américaine. Après le candidat aux primaires des Républicains DeSantis, c'est un démocrate qui a eu le droit à son interview sur le réseau, un certain Kennedy. Robert, le fils de Bobby Kennedy, qui espère bien jouer la carte de l'antisystème pour prendre l'investiture. Bon, quand on porte le patronyme de Kennedy et qu'on se veut antisystème, on peut parler d'une petite contradiction. Et c'est loin d'être la seule, car Robert se dit à gauche, mais il est soutenu par des anciens conseillers de Donald Trump comme Steve Bannon. Et surtout, il n'hésite pas à embrasser les théories conspirationnistes en déclarant que le Covid était une arme biologique. Il a d'ailleurs mené une grande campagne anti-vax tout au long de la pandémie. On le dit proche, comme Donald Trump, de l'idéologie QAnon. Voici donc un anti-vax de gauche qui milite pour la fermeture de la frontière mexicaine tout en défendant les enjeux climatiques. Une sorte d'ovni politique sans colonne vertébrale qui surfe sur les fractures de la société américaine pour mieux tenter de ressouder un corps électoral.
Mais qu'est-ce que c'est? Regardez, c'est un ver de terre.
Et on termine par le groupe Carrefour, toujours en pointe quand il s'agit de tester les innovations. On se rappelle de leurs expériences dans le métavers, où ils avaient tenté de bâtir un magasin virtuel. Bon, ils cherchent toujours les clients d'ailleurs. Et cette semaine, ils lancent leur propre ChatGPT avec Hopla, un programme d'intelligence artificielle qui fonctionne avec OpenAI et qui vous aide à faire vos courses. Vous propose des recettes en fonction de votre budget ou de ce qu'il vous reste dans le frigidaire. Le tout avec des produits Carrefour pour bien sûr remplir le caddie. On verra cette fois-ci Carrefour ne tombe pas dans une impasse technologique, sinon vous êtes bien sur la place et dans la place du meilleur des mondes.
Carrefour, le positif est de retour.
Welcome to the brave new world.
Et nous sommes de retour en compagnie de Lucie Alexis, maîtresse de conférence à l'université Grenoble-Alpes, qui a donc coordonné ce dernier numéro de la revue Réseau, intitulé « Téléréalité et réseaux sociaux numériques, un couple médiatique gagnant ?» Point d'interrogation. Et c'est une des questions que nous posons ce soir en compagnie de la journaliste Constance Villanova et de la sémiologue et maîtresse de conférence à l'université d'Avignon, Virginie Spies. On discute donc de cette téléréalité, de ces mutations depuis l'arrivée des réseaux sociaux. Il y a forcément un mot qui a été prononcé par vous, Constance Villanova, au début de cette émission, c'était celui d'influenceur, parce qu'on voit que ces stars de la télé-réalité, en plus, à l'époque de faire la couverture des journaux People, aujourd'hui, bien, peuvent créer une petite entreprise, deviennent, font du placement de produits, monétisent leur audience. Quels sont les liens, finalement, entre les studios de production, les maisons de production et ce marché de l'influence? Est-ce qu'il y a une porosité entre ces deux mondes? Parce que finalement, ils fabriquent ces stars. Est-ce qu'ils récupèrent quelque chose de cette fabrication des stars?
Il y a une porosité avec, avec certaines agences en placement de produits, dont celle de Magali Berda, qui s'appelait Shona Event. Enfin, qui s'appelle Shona Event. Magali Berda, qui est un peu la papesse de la télé-réalité, orchestrait un peu les placements de produits de ses clients, qui étaient tous des candidats. Donc, il y a une porosité, mais ça commence à faire tâche, en fait. Et on le voit au niveau des audiences. C'est-à-dire que les boîtes de production essayent de se dégager de cette image un peu, d'essuyer un peu cette image d'arnaqueur qu'ont les candidats, et c'est très compliqué. C'est très très compliqué.
Puisque vous citez Shona Event, on rappelle qu'il y avait aussi l'implication de Baninja qui avait pris des parts dans Shona Event. Alors on rappelle, Baninja, c'est un grand groupe de production audiovisuelle, un grand groupe européen qui produit d'ailleurs quantité de programmes de télé-réalité.
Oui, tout à fait. C'est une des plus grosses boîtes de prod. Enfin, il y a une sorte de consanguinité, en fait. Voilà. Entre les agences, les boîtes de production, les candidats, on va avoir Magali Berda qui était elle-même devenue une sorte d'influenceuse qui faisait partie aussi de certains programmes. On l'a vu en tant que coach dans Les Princes et les Princesses de l'Amour particulièrement. Donc oui, il y avait une porosité entre tous ces milieux-là. Cette porosité fait tâche malheureusement.
Virginie Spies, par rapport justement à ces mondes, à ce marché de l'influence qui va rencontrer aussi le marché de la production.
Oui, par rapport à ça, ce qui est intéressant, c'est que tout d'un coup, on utilise ce mot influenceur dans la production, sans vraiment savoir ce que ça veut dire finalement, parce que on pourrait dire que Yannick Noah, quand il a gagné Roland Garros il y a 40 ans, je crois maintenant, il était un influenceur sport finalement, mais on n'utilisait pas encore ce mot. Donc, qu'est-ce que ça veut dire influenceur aujourd'hui? Ça veut d'abord dire avoir réussi à réunir une communauté sur nos propres réseaux sociaux, et donc de revendre en échange cette communauté contre de l'argent en vendant du savon, des yaourts ou des bonbons ou du maquillage. Et donc parmi les personnes qui font de la télé-réalité, il y a en effet des personnes qui se disent influenceurs. Pourquoi ? Parce que notamment la télé-réalité finalement produit, alors entre mille guillemets, des produits assez périssables que sont ces nouvelles stars, vous voyez. Et qu'est-ce qu'elles deviennent après ? Puisqu'elles n'ont pas été connues pour une qualité, comme dit Edgar Morin, nous dit quoi, le sociologue. Il nous dit, une star, elle est connue par ses qualités cinématographiques, c'est un artiste. Alors que là, ces nouvelles stars, finalement, c'est ce que j'appelle moi des people plutôt, sont des personnes qui sont juste connues parce qu'elles sont connues. Et alors, une fois qu'elles sont devenues célèbres, qu'est-ce qu'elles font? Elles n'ont plus qu'à retourner sur le marché de la télé-réalité, qui finalement ne leur propose pas forcément beaucoup d'émissions, et on a vite fait le tour, en fin de compte. Donc, elles créent leur contenu, entre guillemets, sur Instagram, sur TikTok, etc., pour vendre leur communauté. Donc, c'est un marché très périssable de la célébrité.
Oui, mais c'est en ça où, justement, c'est une différence avec Yannick Noah, que vous évoquiez tout à l'heure, qui était connu pour ses qualités de sportif. Et il y a quand même une définition, justement, d'un influenceur qui a tenté d'être mis en place lors de ce texte parlementaire qui vient d'être adopté par le Sénat. Un influenceur est donc celui qui est rémunéré pour faire la promotion d'un produit envers une communauté. Et justement, cette loi, elle tente de mieux réguler le marché, de mieux comprendre, de mieux définir ce que c'était qu'un influenceur. Et c'était ce flou qui a fait naître pendant longtemps aussi une image assez négative du genre, bien entretenue d'ailleurs par les stars de la télé-réalité. On rappelle que les 150 000 influenceurs qui sont référencés en France ne sont pas tous issus de la télé-réalité. N'empêche que cette loi arrive pour interdire certains secteurs de promotion, comme par exemple la chirurgie esthétique, qui est un genre assez, je vais en dire, presque premium dans la télé-réalité, Constance Villanova.
Oui, alors il faut se rappeler qu'il y a un modèle pour les candidates et les candidats, c'est la famille Kardashian, hein, donc dont Kim Kardashian et ses sœurs, qui consomment sont devenus des étendards de certaines opérations et ont vulgarisé des opérations autrefois rarissimes. Ça a provoqué quoi ? Ça a provoqué une banalisation chez les candidates du recours excessif à la chirurgie, avec un visage qu'on retrouve chez quasi toutes les candidates maintenant, avec des pommettes rehaussées, avec des lèvres gonflées. Et ça a conduit à quoi ? À des dérives, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de femmes qui proposent des injections alors qu'elles n'ont pas de diplôme. On a eu des dérives aussi au niveau de candidates elles-mêmes que j'ai pu rencontrer, qui, pour avoir un fessier plus imposant, comme Kim Kardashian l'a fait, se sont fait injecter de l'acide hyaluronique dans les fesses et ont failli perdre la vie, tout simplement. Elles sont encore à l'hôpital pour certaines d'entre elles et alternent les séjours entre quelques placements de produits. Elles retournent à l'hôpital. Donc et cette loi vise à interdire la promotion de la chirurgie esthétique parce que on est face à des jeunes femmes qui vont chez leur médecin esthétique comme elles vont chez le coiffeur ou chez
la manucure. Il y avait une banalisation effectivement de l'acte excessive chirurgical
avec des codes promo pour certaines cliniques, même je pense à une grande clinique parisienne sur les Champs-Élysées, qui profitait de la visibilité de ces candidats-là pour proposer des codes promo pour des injections.
Une banalisation donc largement entretenue par certains candidats de la télé-réalité qui n'hésitaient pas d'ailleurs à se filmer lorsqu'ils partaient dans certains pays du Maghreb, en Tunisie je crois, pour bénéficier justement d'opérations gratuites chirurgicales. Donc finalement, cette loi, c'est peut-être sans doute une bonne chose pour essayer de revaloriser un peu le métier, ou vous pensez que cette loi aura du mal à se mettre en application ?
Bah, en fait, elle était déjà censée se mettre en application. Par exemple, il y a le retour de la question de ne pas faire de promotion de produits avec du tabac. On a déjà la loi Evin. Le fait que les influenceurs doivent préciser que c'est une publication sponsorisée, c'était déjà le cas. On essaie un peu de régulariser un Far West, mais Mediapart d'ailleurs a sorti une enquête il y a quelques jours qui montrait que à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, il y avait très très peu de personnes, que les effectifs avaient été réduits. Donc je pense que c'est aussi pour rassurer, mais ça n'innove pas vraiment.
Même si on a vu quand même quelques sanctions apparaître, notamment chez certains candidats. Alors il y a des montants d'amende qui sont parfois rarement en fait appliqués, puis il y a quand même cette obligation de sur son poste de publier justement les différentes sanctions. Et ça, j'imagine, quand on est maître de son image et de son influence, c'est quand même assez gênant de devoir dégrader sa propre image. Virginie Spies, quel est votre avis par rapport à cette loi, à son impact et sa réalité d'application ?
C'était une loi qui était nécessaire, en effet, et qui va avoir du mal à être véritablement appliquée, comme vous venez de le dire, mais elle était nécessaire, voire indispensable. Et ce qu'elle nous montre aussi, c'est qu'il y a une véritable confusion entre un influenceur qui arrive de la télé-réalité, comme vous venez de le dire, ou un autre qui s'est créé tout seul, entre guillemets, avec les réseaux sociaux. Et donc, il y a un véritable flou. Et en fait, on ne sait pas vraiment de quoi on parle quand on parle de la question de l'influenceur. Et moi, il me semble que là, on est vraiment simplement dans la notion des personnes qui sortent de télé-réalité d'enfermement.
Lucie Alexis.
Peut-être ce qui est à noter aussi dans cette loi, c'est la volonté de protéger le consommateur, en fait. On parle beaucoup du statut de l'influenceur, des bonnes pratiques à adopter, etc. Mais c'est surtout la volonté de protéger... Enfin, il me semble qu'il y a quand même cette volonté de protéger le consommateur qui est très présent. Peut-être juste une toute petite chose que je voudrais ajouter. Il y a une instance en France qui s'appelle l'Autorité de Régulation Professionnelle pour la Publicité, la RPP, en fait, qui tente de mettre en place pas mal de choses, des recommandations, un observatoire, etc., de l'influence responsable, etc., et qui, depuis quelques années, quand même, essaye de s'approcher de plus en plus des influenceurs, de s'approprier les formats que les influenceurs...
Et de nouer un dialogue, effectivement, aussi.
Absolument. De mettre en place ce certificat avec des bonnes pratiques. Là, il y a un podcast qui est sorti, je crois, l'année dernière, où des influenceurs qui ont eu ce certificat, du coup, vont témoigner de ces bonnes pratiques, etc. Il y a quand même une volonté pédagogique, en fait, de la part de la RPP, de faire un effort, effectivement, d'aller vers les influenceurs.
Alors, on va maintenant parler des plateformes que vous évoquiez tout à l'heure, qui sont rentrées aussi dans le jeu, pas dès le début d'ailleurs, ils ont mis un petit peu de temps à développer leur programme de télé-réalité. On peut citer Netflix et ce programme qui est très suivi, qui s'appelle L'Agence.
Bienvenue dans la maison la plus haute de Marseille.
Ah, d'accord.
c'est une maison qui est emblématique à Marseille, qu'on voit quasiment de tout point dans la ville.
Ce qui fait de cet appartement un appartement exceptionnel, c'est cet étage, vous allez voir.
Ah, Martin, enfin.
On a une très belle surface aussi à cet étage, qu'on a plus de 100 mètres carrés. Et 150 mètres carrés de terrasse.
Waouh! Waouh, donc une famille que l'on suit au quotidien, qui a donc une agence immobilière et qui va avoir des biens d'exception, puis il y a forcément des querelles internes et familiales. On reprend quelques codes d'une autre série qui s'appelle Succession, qui est diffusée sur une plateforme concurrente. Donc on a à la fois ce problème de télé-réalité qui n'est pas du tout linéaire puisqu'il est consommé sur Netflix. Ça change quoi l'arrivée des plateformes dans le genre de la télé-réalité, Virginie Spies?
Alors ce que ça change, c'est ce que ça nous montre d'abord, si je puis me permettre, c'est que c'est une manne financière finalement la télé-réalité. C'est pas cher à produire, ça peut rapporter gros, comme on disait dans une publicité à l'époque, et donc les plateformes se mettent vraiment sur ce format. Et dans le cas de l'agence dont vous venez de mettre un extrait, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça nous dit quand même quelque chose de la télé-réalité, c'est que c'est d'abord du divertissement. Et ça, peut-être qu'on en a pas encore trop parlé ici. Et donc, du divertissement, ça veut dire nous faire plaisir, éventuellement nous faire rêver, sans autre prétention peut-être éventuellement. Et ça, c'est quand même une dimension qui est très importante dans la question de la télé-réalité, je crois.
Mika a un petit peu toujours été, parce qu'elle s'est jamais tellement présentée comme étant autre chose qu'un divertissement, peut-être même dès le départ.
Alors, en fait, en 2001, quand on est
ah oui, tu avais une expérience un peu documentaire, c'est ça?
Ah oui, on nous dit attention, là vous allez voir la vraie vie des vrais jeunes. Et pendant les premières semaines, donc toute la France était émue de ce discours qui disait on va parler de la réalité, et donc jusqu'au journal Le Monde et tous les médias dire mais c'est pas ça la réalité. Donc on a transformé ça en jeu en disant ok, donc là en fait on va jouer, vous allez pouvoir garder des candidats et tout. Et après on l'a vraiment rendu encore plus ludique avec l'arrivée de la Star Academy et d'autres formes qui sont ludiques, je dirais. Et donc on est quand même dans des programmes de l'ordre du divertissement. Et c'était pas tout à fait la promesse de départ.
Et aujourd'hui, c'est donc assumer cette promesse de divertissement. On reste sur Netflix avec vous, Marie Turcan. Bonsoir, Marie.
Bonsoir.
Vous nous rejoignez pour votre chronique quasi hebdomadaire dans le meilleur des mondes. C'est même la dernière de cette saison pour nous parler, de Ultimatum et de la dernière saison qui est assez particulière.
C'est vrai. Alors, The Ultimatum, c'est quoi? C'est la nouvelle télé-réalité inédite de Netflix qui met en scène une douzaine de participants, 5 ou 6 couples en fonction des saisons. Le principe, au sein de chaque binôme, l'un veut se marier, l'autre non. Pour débloquer tout ça, une solution étonnante, les candidats se mélangent, se draguent et vont former des nouveaux couples avec des autres participants. Pendant 3 semaines, ils et elles vont habiter ensemble comme dans un faux mariage avant de retrouver leur partenaire d'origine. On reprend son souffle. Maintenant que vous avez les bases, vous êtes fin prêt pour la bande-annonce en VF avec un petit twist. Dans la nouvelle saison de The Ultimatum, tous les candidats, toutes les candidates sont lesbiennes.
Et je vais aller en rancard avec 8 magnifiques femmes.
Où est mon cocktail?
La chasse est ouverte.
Je suis jamais sortie avec quelqu'un d'aussi masculin. Normal.
Elle est canon.
Mais je craque aussi sur son ex.
C'est dur d'envisager l'avenir avec toi.
Je pensais à ma perception du genre.
Alors, je pourrais vous faire croire que je me suis empiffré ces 10 épisodes pour la science. La vérité, c'est que j'ai pris un immense plaisir à voir ces candidates queer s'écharper dans ma télé, alors même que je trouve le concept assez incohérent et les ficelles très grossières.
Alors, ficelles grossières, incohérentes, vous avez aimé ou pas finalement le programme?
Alors, une partie de moi s'est réjouie d'un tel niveau de représentativité pour une communauté historiquement invisibilisée. Grandir dans les années 80-90, c'était n'avoir qu'une dizaine de films à regarder en boucle pour se sentir exister. Aujourd'hui, Netflix montre ses 10 lesbiennes à 230 millions d'abonnés. Le message est clair, les personnes queer sont comme les autres, vivent les mêmes tracas avec autant d'intensité. J'ai donc d'abord vu une célébration, le droit des lesbiennes à être nulles, lourdes et prêtes à faire de leur vie intime un spectacle. Une manière de rejeter les injonctions à l'excellence que les personnes minorisées connaissent bien. Comme elles sont peu visibles, celles qui réussissent en termes de pouvoir ou de visibilité, visibilité ont souvent la pression d'être des modèles impeccables. Mais après avoir ingéré ces 10 épisodes, quelque chose me reste sur l'estomac. Est-ce vraiment une victoire d'avoir réussi à faire entrer des personnalités queer dans le moule des téléréalités hétérocentrées, avec un schéma unique, un couple exclusif, l'accession à la propriété et puis les projets d'enfants? Il pourrait être galvanisant également de montrer d'autres modèles, pas forcément parfaits, mais des alternatives possibles qui permettraient de penser la société différemment. C'est peut-être ça que l'on attend aussi d'un monde meilleur.
Merci Marie Turcon pour ce clin d'œil aussi au meilleur des mondes, et on reprend d'ailleurs...
Ah, c'est le nom de l'émission.
Mais oui, c'est ça. Et on retrouve d'ailleurs une de vos thématiques tout au long de cette émission du monde meilleur ou du meilleur des mondes, je ne sais même plus comment elle s'appelle maintenant, on s'y perd, où vous parliez justement de ces girl boss dont le modèle est toujours aussi un modèle un peu dominant, viriliste. Donc on revient finalement à la même idée d'arriver...
Qui est très contesté.
Ouais. Exactement, très contesté. D'arriver à créer finalement un univers qui serait plus inclusif, qui serait plus éthique. Est-ce que tout de même les plateformes n'ont pas, au-delà de la série dont vient d'évoquer Marie, permis justement une plus grande représentativité? Est-ce que la télé-réalité n'est pas dans cette voie-là, Constance Villanova?
Netflix a permis d'offrir à tout le monde la télé-réalité qu'il souhaite, en fait. C'est-à-dire que ceux qui n'aiment pas la télé-réalité vont regarder, par exemple, Terrace House. Je ne sais pas comment on dit, Terrace House.
Terrace House.
Ouais, qui est une émission de télé-réalité japonaise où il ne se passe rien, où les candidats prennent le temps de se mettre en couple. Moi, je m'ennuie mortellement, mais qui plaît énormément. Elle a créé une télé-réalité un peu CSP+, en fait. On le voit avec le carton de Selling Sunset aussi, hein, qui est une agence immobilière à Beverly Hills, tenue par deux hommes, mais c'est six femmes, enfin six agentes qui tiennent les manettes. Donc voilà, elle a créé un monde multipolaire où tout le monde peut choisir la télé-réalité qu'il souhaite. En revanche, à part l'agence, en termes de show francophone, il n'y a pas beaucoup de succès. Il y a eu quelques essais avec Ultimatum France, qui est très 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 mauvais, que j'ai regardé pour le travail.
Alors peut-être au-delà de Netflix, on peut parler aussi de Drag Race France dans des molles sur France Télévisions,
c'est de la télé-réalité, mais ça reste du télécrochet aussi pour moi, donc on est moins dans l'enfermement, et c'est clair que, et encore une fois, Drag Race France, c'est en démol, hein, donc on voit aussi qu'il y a cette volonté chez en démol d'inclusivité et de plus de représentation. Amazon Prime a fait le pari, a parié tout sur Nabila. C'est-à-dire qu'ils ont créé deux shows. Donc, un sur son mariage. Ils ont eu les droits d'image, en fait, de son mariage avec Nabila sans filtre. Et Cosmic Love, qui est une émission de dating où six Françaises vont trouver l'amour grâce à leur thème astral. Et ça n'a pas très, très bien marché non plus. Donc, en fait, ce qui marche bien, c'est les téléréalités internationales, pour le coup, sur ces plateformes-là.
Virginie Spies, vous qui avez coordonné le dernier numéro de télévision, notamment à la plateforme Twitch, est-ce que ça pourrait être justement une plateforme qui pourrait voir, faire renaître, réadapter la télé-réalité, comme on l'avait dit tout à l'heure avec Lucie, sans télé?
Alors peut-être pas, je suis pas sûre, hein, peut-être pas avec le public actuel de Twitch qui vient quand même d'abord du gaming et qui a envie de voir d'autres propositions que la télévision elle-même. Par contre, il y a un vrai lien en effet entre la télévision et Twitch, c'est la question du rendez-vous dont je parlais tout à l'heure, et Twitch justement avec sa capacité à faire du direct, à gérer des publics en direct, à avoir le chat comme vous le faites actuellement dans l'émission, a justement cette façon de faire qui est intéressant, qui est d'avoir remis du rendez-vous dans le live, chose que ne peut pas faire YouTube et qui est très différent sur les autres plateformes. De là à dire qu'on va aller dans la télé-réalité, je n'aime pas faire tellement de prévisions. En général, on se trompe.
Lucie Alexis, dans l'introduction de cet ouvrage et cette coordination, on le disait tout à l'heure, est-ce que la télé-réalité peut exister sans télé? On a déjà donné quelques petites bases de réflexion. On voit quand même si on a bien compris ce que nous a dit Constance Villanova, que le genre s'essoufflait, que les audiences sont totalement une forme d'érosion. Néanmoins, ça fait déjà plus de 20 ans que le programme est là, il s'est installé. On a parlé de ces chaînes comme NRJ12, W9, qui les diffusent de manière industrielle. Presque 80% de la programmation et de la grille du programme est issue de télé-réalité. Ça veut dire que le genre, quand même, il est quand même très bien installé.
De toute évidence, il persiste, oui, c'est vrai, il est toujours présent. C'était les enfermements, on le disait tout à l'heure, les ressorts nostalgiques aussi qui sont réinvestis par les grandes chaînes de télé. Et puis, là, je trouvais ça intéressant, cette bande-annonce de l'agence qui flirte complètement avec le genre de la série, quoi. Oui, il est toujours réinvesti et finalement, il se réinvente quand même quelque part.
Il se réinvente quelque part et vous avez raison, puisqu'on a beaucoup parlé aussi de ces codes de la télé-réalité qui ont infusé dans d'autres émissions qui ne sont pas des émissions de télé-réalité. Par exemple, le coaching et puis même ce côté face caméra, je fais un retour d'expérience, on peut le voir dans d'autres genres d'émissions qui n'ont rien à voir avec la télé-réalité. Ça devient un genre et un code. Et on voit aussi effectivement un peu l'inverse sur l'agence, par exemple, des codes de la série qui viennent justement influer sur le récit.
Oui, et je pense aussi à qui veut être mon associé sur M6. C'est très intéressant aussi de voir, parce que c'est quand même des vraies personnes qui investissent leur argent, des personnes qui viennent avec leurs vrais projets. Est-ce qu'on n'est pas aussi là dans une forme de télé-réalité quelque part?
Constance Villanova.
Oui, en fait, on arrive à la fin du cycle, d'un cycle. C'est celui de la télé-réalité où on voit se recycler les mêmes influenceurs, les mêmes candidats. Ça, le public se lasse. On le voit avec La Villa en ce moment qui cumule, la 8e saison de La Villa qui, malgré un casting anonyme, ne marche pas, ne décolle pas. Love Island, c'est pareil. En revanche, Endemol a annoncé le retour de Secret Story. Alors, le tournage n'est pas prêt, mais voilà, on remobilise d'anciens codes pour rassurer et pour faire du doudou, quoi.
Pour faire du doudou, et vous l'avez dit, on arrive à la fin d'un cycle, on arrive aussi à la fin de cette émission. Merci à toutes les trois, à toutes les quatre de m'avoir accompagné pour explorer les liens entre télé-réalité et réseaux sociaux. Je remercie la préparation de cette émission. Comme chaque semaine, Juliette Deveau, accompagnée de notre stagiaire Héloïse Robert, à la réalisation ce soir Camille Mati, à la technique son Jordan Fuentes et à la réalisation vidéo, car nous étions nous aussi filmés 24 heures sur 24, du moins pendant 60 minutes, Ruben Carmazine, voilà, le meilleur des mondes, c'est terminé, on se retrouve la semaine prochaine.